touche plus. Bonjour à tous. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a beaucoup d'absents, mais il y a beaucoup de présents aussi. Donc, nous sommes suffisants pour louer et adorer le Seigneur et puis vivre ensemble un temps de bénédiction. Alors, je ne sais pas quelles sont vos attentes que vous êtes dit en venant dans ce lieu. Il y a des visages habituels, il y a des visages réguliers avec nos amis de Normandie qui viennent en vacances sur le coin. Et puis il y a un visage que je suis presque le seul à connaître, c'est celui d'Huguette. Huguette, c'est une dame que je rencontre depuis plusieurs mois maintenant, dans des temps de partage, d'échange, et qui vient de Plumergat, c'est à 50 km à l'intérieur des terres. Bonjour Huguette, bienvenue. Et puis il y a Aurélie et Damien, des visages qui nous sont chers, puisqu'Aurélie est la fille de Michel et de Catherine, et qu'elle a grandi ici en Bretagne, avant, on ne sait pas trop pourquoi, s'expatrier et quitter la plus belle des terres pour aller dans le Nord. Bon, je pense que c'était pour à la fois le travail, mais beaucoup plus pour l'amour de quelqu'un. Et puis, ils sont là avec leurs deux merveilleux enfants. Ça fait plaisir de vous voir. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et puis, je ne sais pas si c'est le dernier culte avant l'Italie. Non. Tu es encore là quelque temps, Lucie. Voilà. Eh bien, voilà, on aura le temps de profiter de toi et de prier pour toi aussi. Et puis, il y a Francine qui me fait un signe de la main. Ah oui, et puis il y a, Mélissa qui est accompagnée d'un ami qui vient du coin de Marseille. Ah, Marseille. Marseille. Ville où je suis né, rue de la Coutellerie, à côté du Vieux-Port. C'est forcément quelqu'un de bien. Soyez donc le bienvenu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble autour du partage de sa parole. Vous êtes invités ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment d'être invités ce matin? Invités non pas par moi, non pas par Michel, mais invités par le Seigneur. C'est quelque chose d'important d'avoir le sentiment et d'être conscient qu'on est invité. Et que celui qui nous reçoit a prévu quelque chose. Je suis invité ce midi à partager le repas avec Michel, Catherine et puis la famille. J'espère qu'ils ont préparé quelque chose. Ça nous est arrivé à Francine et à moi d'arrêter un culte alors qu'on était dans l'autre local. Et puis, on était invité par une sœur de l'église, à Kevin. Et une fois arrivée chez elle, elle nous a causé pendant pratiquement trois quarts d'heure. Et ce qui m'inquiétait, c'est que je sentais aucune odeur de cuisine. Et j'étais là, alors, avec, on était accueillis, donc je respectais, je répondais. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans ma tête qui tournait. Je me disais, mais elle nous a préparé quoi? Et au bout d'une heure, elle nous a dit, j'ai rien préparé. Je dis, ah bon? Écoute, c'est pas grave. Elle dit, non, mais je vais vous emmener ailleurs. Et elle nous a ramenés à l'église. Et pendant l'heure où elle nous parlait, eh bien, toute l'église s'était rassemblée pour préparer un repas d'anniversaire de mariage. C'était ça, hein. Et donc, tout était décoré, etc. Ils avaient préparé. Mais sans que nous le sachions, et j'ai envie de dire ce matin, est-ce que le Seigneur n'a pas, sans que vous le sachiez, préparé des choses pour vous, pour moi? Alors, j'ai choisi ce matin de vous partager un texte, une parabole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et qui est la dernière des trois séries de paraboles de l'évangile de Matthieu. Matthieu a eu dans sa manière de construire l'évangile, son évangile, le désir de parler ou de retranscrire les paraboles de Christ qu'il avait accompagné pendant 3 ans. Et il en a fait 3 séries. Et là, c'est la dernière série et la dernière parabole. Et c'est la parabole des invités. Si vous avez la curiosité, je vous invite à lire les 3 paraboles qui sont dans le chapitre 22 et à la fin du chapitre 21. Ces 3 dernières paraboles, ce sont la parabole des deux fils, ce sont ces deux fils qui sont avec le père. Le père dit à l'un, écoute, est-ce que tu pourrais aller travailler aujourd'hui dans ma vigne? Et puis le fils répond, ben non, je ne veux pas y aller. Et puis finalement, il se repent, il y va. Et puis il dit à son deuxième fils, est-ce que je te demande d'aller travailler dans ma vigne? Et le deuxième fils dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et puis il n'y va pas. Ça, c'est la première parabole. Les trois paraboles ont un lien entre elles. C'est pour ça que je vous le dis juste en introduction, pour que celle de la parabole des invités, vous puissiez la mettre en lien avec les deux précédentes. La deuxième parabole, c'est la parabole des vignerons. Et alors, quand vous la lisez, vous avez le sentiment d'avoir tous les éléments qu'on va retrouver dans la parabole des invités. Ce sont des vignerons qui ont reçu une vigne de leur maître, et celui-ci part en voyage, comme dans la parabole des invités d'ailleurs. Et puis quand le maître revient, il envoie ses serviteurs pour recevoir le fruit de sa vigne, pour récolter une partie de ce qu'il a confié à ses serviteurs, et les vignerons vont soit rejeter les serviteurs, soit les battre, même les tuer. Et donc il y a une colère là aussi du maître qui, non seulement après envoyer ses serviteurs, va envoyer son fils héritier. Et vous voyez le rapport avec l'Évangile. Les prophètes qui, dans l'Ancien Testament, ont été tués malgré le fait qu'ils étaient envoyés par Dieu. Et le jour où il envoie son fils dans sa vigne, Israël étant aussi une image de la vigne de Dieu, eh bien, ils vont tuer le fils, à savoir Jésus-Christ. Et puis, on arrive à la troisième parabole, qui est celle des noces. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces !» Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr en ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est une parabole qui peut paraître dure à plusieurs égards. Néanmoins, c'est une parabole d'invitation qui parle d'une invitation, dans un premier temps, de ceux qui étaient normalement invités par le roi, qui étaient reconnus, et puis qui ne vont pas se déplacer. La parabole commence par un appel, une invitation. Je ne sais pas si vous avez déjà été invité, je pense que oui, par des amis, par des proches, par de la famille. Ici, le roi appelle ses invités aux noces. Le mot « appeler », c'est-à-dire l'invitation qui est faite à ces personnes qui sont appelées aux noces du fils du roi, pas n'importe quoi, eh bien, ce mot « appeler » apparaît 5 fois dans les 9 premiers versets de cette parabole. Ils sont appelés. L'invitation, c'est un appel. En fait, on pourrait considérer que ce qui nous est présenté comme une invitation, en fait, c'est un appel. Un appel à venir, un appel à rentrer dans la présence de ce roi. Lorsque vous conviez une personne à une réception, vous l'appelez pour participer à un événement spécial. Les invités et les conviés sont en fait la traduction dans ces versets-là, ceux qui étant invités, ceux qui étant appelés, Les étangs, on pourrait le traduire, d'ailleurs c'est traduit dans la version grecque anglaise, les étangs appelés, ceux qui sont dans l'état d'être appelés. Moi j'aime beaucoup cette formulation parce qu'ils sont dans cet état d'avoir été appelés, d'avoir été invités. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas dans cette salle une seule personne qui n'est pas en situation d'étant appelé. Cette invitation, elle est là maintenant sur chacune de nos vies. Nous sommes des étants appelés. Dans l'Ancien Testament, ce même mot d'étant appelé est adressé notamment par le prophète Osée à Israël. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est un verset qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, au chapitre 2, verset 15. Et c'est, dans la version hébraïque, pour le coup, le même mot. Je l'ai appelé, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'est-à-dire hors de l'esclavage, hors du péché. Et nous avons tous, et nous sommes tous, appelés par Dieu à sortir de l'esclavage, de la mort, du péché, et d'entrer dans une vie nouvelle. Ah, vous l'avez entendu cet appel ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'entendez encore ? Est-ce que votre vie est le fruit de cet appel de Dieu qui dit « Je t'appelle hors d'Égypte, je t'appelle hors de la mort, je t'appelle pour une espérance nouvelle ?» C'est l'appel qui était adressé à Israël. Et d'ailleurs, dans cette parabole de l'invitation, il y a ce lien-là entre ceux qui sont les étangs appelés auxquels est adressé cet appel, c'est-à-dire le peuple d'Israël, appelé par le Père à assister aux noces du Fils, à la victoire du Fils, eh bien, ces invités-là disent « Non, on a autre chose à faire. » Et cet appel-là, on ne pense pas que ce soit primordial ou important. C'est nous qui décidons si cet appel a du sens pour nous. Et le peuple d'Israël, dans son ensemble, en tout cas la religion juive, les prêtres diront ben non, nous ne répondons pas à l'appel de ce Messie que nous attendons. C'est-à-dire qu'ils ont refusé l'invitation du Messie qu'ils attendaient, de celui qui était le représentant ou la réponse de Dieu à leur attente. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit ceci : à ceux qu'il a prédestinés, 8:30, il les a aussi appelés, et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a prédestinés les a appelés, il les a appelés. Ah, dans ce récit, il s'agit d'une invitation, d'un appel à rentrer dans la pensée de Dieu, à venir assister à la victoire de Christ, à être là à un festin. Je ne sais pas si j'aurai un festin ce midi, là où je vais aller, mais en tout cas, je suis assuré de bien manger. Mais il y a un appel où Dieu nous dit « Je t'invite à rentrer au festin des noces de l'agneau ». Les noces, c'est un festin de noces. Un festin de noces que le roi prépare. Ces noces, c'est une représentation de la victoire de Christ. Et ce n'est pas, je dirais, un festin eschatologique seulement. C'est déjà maintenant la possibilité de goûter et de savourer les promesses de Dieu. Les noces de l'agneau, c'est déjà l'Église qui maintenant fait alliance avec Christ. Et l'Église, c'est toi et c'est moi. Je fais alliance. Je suis déjà invité, appelé à avoir part aux noces de l'agneau, déjà maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre la fin des temps. Pour ceux qui auront un peu de chance, qui seront enlevés, et pour les autres qui attendront après la mort le réveil et la résurrection, d'attendre ce festin des noces. Non, c'est déjà maintenant. Lorsque Jésus parle, il commence par dire « Le royaume des cieux est semblable à un roi, le royaume des cieux. Ce royaume des cieux dont il est parlé, c'est non pas un état ou un royaume spirituel qui viendra à la fin des temps, c'est déjà maintenant Jésus-Christ au milieu de nous. C'est Origène qui, dans les années 250, donc au IIIe siècle, disait « Ce royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ. Et si j'ai Jésus-Christ, je suis déjà avec le royaume de Dieu en moi. Et si l'Église a Jésus-Christ en elle, elle a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas seulement à venir, il est déjà maintenant au milieu de nous. C'est pour Origène, quand il faisait le commentaire de l'évangile de Matthieu, il disait que c'était l'auto-basileia, lorsqu'il parlait de Jésus. L'auto, auto c'est soi. Basileia, c'est royaume. C'est-à-dire qu'en Christ était le royaume de Dieu. Il était le royaume de Dieu en lui-même, en personne. Et c'est... Je ne suis pas un lecteur assidu des discours des papes de l'Église catholique, mais ils disent de belles choses, il faut le savoir. Et c'est Benoît XVI qui disait « Une dimension, le royaume de cieux, c'est une dimension christologique. Le royaume n'est pas une chose, il n'est pas un espace de souveraineté, au même titre que les royaumes terrestres, il est une personne, il est Jésus-Christ. » Amen. J'aimerais que bien des protestants aient cette conception et cette révélation du royaume de Dieu dans leur vie et dans leur église. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est Christ. L'invitation, on dit que dans le grec, c'est kaleo, un appel. Et en fait, dans le texte que nous avons de l'évangile de Matthieu, lorsqu'il est parlé d'invitation, en fait, c'est un appel. C'est kaleo, c'est kalesai, donc c'est Dieu qui appelle. Ah. Et des appels, des invitations, Dieu nous en donne tout au long de l'évangile. Tout au long. Lorsque, dans l'évangile de Jean, il est dit au chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi !» C'est pas une invitation, ça. C'est pas une invitation. Et qu'il boive. Jésus nous appelle, nous invite à boire de cette eau de vivante qu'il est pour chacune de nos âmes. « Venez à moi, vous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive à boire. » Ceux qui croient ont répondu à cet appel. Et nous avons bu pour, je l'espère, la plupart d'entre nous, de cette eau qui donne la vie. Je lisais cette semaine, au début de la semaine, nous lisions, parce qu'on s'est rendu compte à la réunion de prière de mercredi que ma femme et moi, séparément, on lisait le même texte. Et en parlant à la réunion de prière, tout à coup, on s'est rendu compte que Francine voulait apporter une méditation. Comme je suis un pasteur éclairé et soumis à sa femme, je lui dis, mais aucun problème. Et quand elle l'a apporté, je me suis rendu compte que c'était le texte que j'avais lu la veille, et elle aussi. Et c'était dans Matthieu 10, et où il disait, « Dans quelque ville ou village où vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. » Et bien vous savez, Jésus dit la même chose. Moi, je veux demeurer chez toi. C'est le sens du verset de l'Apocalypse. Je frappe à la porte. Et si quelqu'un m'ouvre, je rentre. Il y a une double invitation. Lui qui nous invite et nous qui sommes invités à le laisser entrer chez nous. Est-ce que vous avez reçu cet appel? Est-ce que je l'ai reçu? Dans le dernier verset de cette parabole, Jésus dit... Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ou peu sont élus. Alors ça, c'est un verset qui pose beaucoup de soucis aux théologiens. On se dit, mais alors, si on est appelé, on peut ne pas être élu. Et puis, on s'aperçoit que cette question, évoque la différence entre le fait d'être appelé et d'être choisi. Hein ? Dans un appel, il y a nécessairement une certaine forme de choix. Si vous invitez des gens pour passer la soirée chez vous, vous avez choisi ces personnes. Moi, ce qui me fait plaisir ce midi, c'est que j'ai été choisi par Michel et Catherine avec mon épouse pour venir chez eux. Ils n'ont pas dit « Tiens, Jean-Marc, on voulait faire venir quelqu'un, on ne savait pas trop qui, et puis finalement, on se dit bah, « Pourquoi pas toi ?» Vous avez déjà invité comme ça ? Hein ? La personne en face se dit oh bah, comme invitation, je suis pas forcément désiré ou ouais, j'étais pas le premier choix. C'est un peu comme dans la cour de récréation, vous savez, ça m'a traumatisé toute ma vie. Vous peut-être aussi, vous savez, quand vous avez deux équipes à faire pour jouer au football ou jouer à un jeu et qu'on dit, vous avez les deux stars de la cour de récré qui se mettent de chacun d'un côté, puis ils disent bah moi je choisis un tel, puis l'autre dit bah moi je choisis un tel, puis vous voyez le groupe qui diminue et vous êtes toujours celui qui n'est pas encore choisi. Et moi, ça m'arrivait tout le temps. J'étais ou l'avant-dernier, ou l'antépénultième, ou le dernier. Et puis, ça me marquait. Mais pourquoi moi, je ne suis pas choisi avant ? Je me débrouillais bien avec un ballon. Mais bon, je n'étais pas choisi. Je ne faisais pas partie du cercle des invités remarquables. Ouais. Christ m'a appelé. J'avais 16 ans et demi. Christ m'a appelé. Et quand il m'a appelé, j'ai regardé derrière moi pour voir si c'était bien moi. J'ai dit, t'es sûr, Seigneur, c'est moi que tu veux ? C'est moi que tu invites ? Et il m'a dit, oui, c'est toi. Mais t'es sûr, il y en a d'autres, hein ? Puis j'en voyais plein d'autres autour de moi dans ma vie. J'ai dit, mais un tel... Non, c'est moi. Ça m'a fait un bien. Ça a guéri toutes les fois où je n'avais pas été choisi. Jésus-Christ te choisit ce matin et te le dit, tu es choisi par moi parce que je t'ai aimé de toute éternité. Quand je suis né à Marseille, vraiment par hasard, hein, ma mère était là-bas depuis quelques années, elle a rencontré mon père et je suis arrivé. Eh bien, cela déjà était inscrit dans la pensée de Dieu. Il avait déjà son doigt sur ma vie. Même quand ma vie a pris des chemins compliqués, difficiles. Dieu, à un moment donné, m'a dit, « Mais ma main est sur toi, je te choisis, comme il le disait aux prophètes dans l'Ancien Testament. » Alors, est-ce que vous avez été choisi ? Ah, le verset de cette parabole, c'est cela, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, c'est-à-dire peu sont choisis. » Alors, pourquoi tous sont appelés ? Parce qu'à un moment donné, on peut prendre l'exemple de Judas dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 70. Nous avons le mot choisi qui est appliqué aux disciples. Même Judas a été choisi. Oh ! Étonnant, non ? Pas un bon DRH, Jésus. Pas un bon DRH. Ça m'est arrivé en tant que directeur, dans mon travail, de recruter au fil des mois et des années, certains recrutements que j'avais faits. En me disant, waouh, je me suis mis un caillou dans la chaussure, va falloir assumer. Et j'ai assumé. Ben, Jésus, il a choisi Judas. Vous me direz, il a été choisi, il a été appelé, il a été invité. Mais lui, il a dit, j'ai choisi Judas, un des 12. Cependant, est-il dit alors, au moment de cet appel, celui-là est un démon, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'opposer à Dieu. Quand j'étais au collège biblique avec Michel, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ou Francine qui était avec nous en même temps, nous étions là et il y avait un professeur qui au début, en tout début de notre collège biblique, moi j'y suis resté 3 ans et puis les autres quelques années aussi, en tout début il a dit, il a regardé au culte du matin. Tout le matin, on avait un culte. Il a regardé l'assistance. On était 150 devant lui. Un auditoire de jeunes gens venus là pour se former, pour servir Dieu. Il a regardé le groupe d'étudiants et il a dit ceci. Certains d'entre vous n'iront pas jusqu'au bout de leur appel avec Dieu. ça nous a mis dans une certaine colère. Comment ? Mais on a fait le sacrifice de ce que nous faisions. Nous sommes venus au Danemark, nous sommes venus pour étudier la parole de Dieu, nous sommes venus pour nous consacrer. Et cet homme disait et annonçait, certains d'entre vous n'iront pas jusqu'au bout de leur appel. Être appelé et répondre à l'appel de Dieu est une chose. Tenir et aller jusqu'à la ligne d'arrivée en est une autre. Je suis appelé, mais Judas avait le choix, là aussi, de choisir un autre chemin et de devenir un ennemi de Dieu. J'ai 64 ans, il y a plus de 40 ans, 43 ans, que j'ai entendu ces paroles de ce professeur. J'ai vu des vies merveilleuses, transformées, des témoignages, des hommes et des femmes se lever et servir Dieu. Mais j'ai vu aussi, je dois le reconnaître, des hommes et des femmes qui sont éloignés de Dieu, qui se sont écartés des promesses de Dieu. Je veux dire, même si c'est triste à dire, des personnes qui ont rejeté le salut qui leur était accordé, bien qu'ayant rencontré Christ à un moment donné. C'est vrai. Être appelé et aussi être élu pour aller jusqu'au bout de notre appel. Même si je suis choisi, si je suis élu, il me faut tenir bon au fil des mois, des années. On a dit oui à une invitation, mais on peut revenir sur sa décision. Il m'est arrivé, il y a quelques années de cela, d'accompagner quelqu'un dans le baptême. Et j'ai découvert il y a 2 ans que cette personne était devenue druide dans la religion celtique. Ouais. Où est Christ ? Où est l'appel ? Où est la volonté de la personne, de l'individu, de rester dans l'appel et l'invitation qui lui est fait ? Les Juifs comptaient sur leur filiation naturelle pour bénéficier du salut et de la bénédiction divine. Cette parabole nous parle de cela. Lorsque Jésus parle de ce roi qui invite, il y a un certain nombre d'invités qui sont naturellement appelés à venir assister aux noces de l'agneau, aux noces du Fils. Et c'était ce qui était la prédestination, en tout cas l'appel d'Israël, lorsque le Messie viendrait, de pouvoir l'accueillir et de découvrir la réalisation des promesses de Dieu. Jésus, notamment dans le chapitre 8 de Matthieu, va rectifier leur croyance. Être un descendant d'Abraham ne garantit nullement un passeport pour le royaume de Dieu. De la même façon, le fait d'appartenir à la nouvelle nation ne garantit pas automatiquement le salut. Encore faut-il rester dans ce salut, jour après jour. La parabole, une des parties qui est aussi très intéressante, la parabole souligne l'obligation de porter l'habit de noces. Ah, ça veut dire qu'il faut être habillé conformément à l'attente de celui qui invite. Je me rappelle, il y a 22 ans à peu près, j'ai été invité chez le sous-préfet de Lorient. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Je suis honnête, ça m'est arrivé une fois. Et je ne savais pas pourquoi. Alors je suis allé dans la résidence privée du sous-préfet de Lorient, qui se trouve au centre-ville, ce n'est pas la sous-préfecture, au centre-ville, une grande propriété très cachée. Puis devant le grand portail, il y avait deux policiers en attente, il a fallu que je montre mon invitation. N'est pas en capacité d'entrer dans cette propriété celui qui ne peut pas prouver qu'il est un invité. Je n'étais pas habillé spécialement pour, C'était un matin, et on était invité à prendre le petit déjeuner, un petit déjeuner de travail. J'ai montré mon invitation, je suis rentré, et là, je suis resté ébahi devant la beauté du lieu. Je ne connaissais pas. Très caché. Et là, je suis rentré dans la résidence personnelle du sous-préfet de Lorient. Et en fait, j'ai découvert que j'étais invité parce qu'il y avait une nouvelle loi qui passait sur les contrats aidés et qu'il réunissait tous ceux qui étaient, je dirais, aux manettes pour embaucher du personnel, etc., dans les entreprises, dans les associations. Et il faisait ça plusieurs fois. Et donc, j'étais là. Il y avait une attente de sa part. Et j'avais mis une chemise, une cravate, comme d'habitude pour aller à mon travail. Et donc, j'avais l'habit qui correspondait à l'invitation. Je ne suis pas sûr que si j'étais arrivé en short et en sandales, les policiers m'aient laissé entrer malgré l'invitation. Je correspondais au code. Ah ouais. Là, pour que l'invité rentre dans la salle, il faut qu'il soit équipé, ou en tout cas qu'il corresponde aussi au code de celui qui l'a invité. On est à un repas de noces. On ne vient pas habiller n'importe comment. Il est attendu quelque chose. Et il est dit qu'ici, il est obligatoire de porter un habit de noces. On y reviendra après sur cette question-là. Mais revenons sur cette idée qu'il y a beaucoup d'appelés et il y en a très peu qui sont élus, qui arriveront à la fin. Parce que il y a cette pensée que nous avons, en rentrant dans notre appel, en répondant à l'invitation de Dieu, eh bien, d'avoir le comportement, d'avoir l'attitude, de continuer à avancer avec lui, jour après jour. Ce n'est pas sauver un jour, sauver toujours. C'est tous les jours rester dans une position de dépendance du salut acquis en Jésus-Christ. Oui, mais j'ai été baptisé, je ne me rappelle même plus l'année, dis donc. J'avais 16 ans, 73. Voilà, 1973. Ah, ce n'est pas parce que je me suis fait baptiser en 1973 que tout est clair, que tout est accompli, non. Il s'agit que tous les jours, je sois avec une invitation valide à laquelle je réponds. Au minimum, il y a un minimum, à savoir que Christ est mon sauveur et que, Fils de Dieu, il s'est donné pour moi. Si cette invitation-là, je ne la porte pas en permanence sur moi, alors elle devient invalide. Je ne suis rien que quelqu'un de religieux. Encore faut-il que ma foi intérieure valide cette identité. Être élu maintenant ne signifie pas être élu à la fin. Il y a des hommes politiques, on en connaît quelques-uns, qui avaient gagné les élections avant. Et ils n'étaient pas sur la ligne d'arrivée. Encore faut-il maintenir ce qui est notre appel, le tenir dans le temps. Alors, la question qui est posée par le roi, cette parabole est tellement riche que finalement, il est compliqué de l'aborder globalement. Mais je vais retirer une petite partie. C'est après que le roi soit irrité, il a envoyé ses serviteurs afin qu'ils invitent tous ceux qui étaient dans les rues. Et on est bien là, à la fois à la suite de la parabole des vignerons, où ceux qui ont reçu les promesses, à savoir le peuple d'Israël, et qui ont rejeté le Messie qui était là, présent sous leurs yeux, eh bien, on passe à l'étape du plan de salut de Dieu suivant, qui est, puisqu'Israël a rejeté, bah pour un temps, ils sont écartés de la réalité de la messianité de Christ. Ils l'ont rejeté, ils n'ont pas accepté, ou très peu d'entre eux. Eh bien, Jésus dit dans cette parabole, le roi envoya dans les rues chercher tous ceux qui sont au carrefour et les inviter à la noce. Alors, ils sont allés, les serviteurs, dans les chemins, ils ont rassemblé tous ceux qu'ils trouvèrent, et j'aime cette formule, méchant et bon. Je vais vous assurer que quand Christ m'a trouvé à l'âge de 16 ans et demi, moi, je n'étais pas dans les bons. Je ne me sentais pas être un bon. Mais quand j'ai découvert l'Évangile, j'ai découvert qu'il est il a envoyé ses serviteurs, des pasteurs, des frères, des sœurs, qui m'ont invité dans l'état où j'étais à cette participation aux noces de l'agneau, à venir dans la présence de Christ. Oui, mais je ne suis pas digne. Oui, mais tout n'est pas clair dans ma vie. Mon attitude, mon comportement dans ma famille, mes choix. Oui, il y a du péché dans ma vie. Alors, comment est-ce que je pourrais répondre à cette invitation ? Les méchants et les bons ! Et j'irais que nous étions plus dans la catégorie des méchants parce que loin de la pensée de Dieu, des valeurs de Dieu. On faisait partie de cette catégorie-là. Alors, nous sommes invités comme nous sommes. Nous avons chanté un chant tout à l'heure, là, c'est de louange, c'est « Tel que je suis, tel que je suis, avec mes blessures, avec mes incompréhensions, avec mes doutes. » Ce matin, peut-être que tu es en train de te dire, mais ce que je suis au plus profond de moi, est-ce qu'il mérite d'être d'entrer dans la salle des noces du Fils du Roi, du Fils de Dieu, tel que tu es. Oui, mais ils sont tous rentrés. Il dit qu'il y avait une foule qui est rentrée dans la salle. Et lorsque cette foule est pleine de convives, des étant appelés, eux aussi ont été appelés, eh bien, le roi rentre pour voir qui était à table. Et il aperçoit là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. C'est étonnant, cette partie de la parabole, puisqu'on a vraiment le sentiment que cette partie s'applique sur l'ouverture du salut, non plus au peuple choisi et élu qui devait servir, un petit peu d'intermédiaire, mais dans l'accueil de tous ceux qui sont juifs ou gentils, gentil étant le mot pour dire les non-juifs, hein. On n'est pas gentil forcément, hein. Mais juifs et non-juifs, eh bien, ils ont eu la possibilité de rentrer, l'ouverture du salut au monde, dès la Pentecôte, les disciples se sont dispersés, et le royaume de Dieu qui était en eux s'est établi sur la terre au fur et à mesure qu'ils annonçaient Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Il est le royaume de Dieu. Et nous sommes dans ce royaume dans la mesure où nous sommes en lui et lui en nous. Eh bien, le roi est entré dans la salle et il pose, il voit un homme qui n'a pas de vêtements de noces. Et il lui pose cette question, c'est « Comment es-tu entré ici ?» Alors, dans cette question, ça, ce n'est pas « Pourquoi tu ne portes pas d'habit de noces ?» Mais c'est plutôt « Comment, n'ayant pas d'habit de noces, tu peux être là ?» Sans avoir la tenue adéquate. Ce n'est pas seulement le « Pourquoi », mais surtout le « Comment ?» Comment t'es rentré dans cette salle si tu n'as pas le costume qui correspond. Et cette question, elle est très intéressante. Elle sous-entend que l'homme ne pouvait pas entrer sans être habillé convenablement pour des noces. Alors, il y a plusieurs versions bibliques qui tiennent compte de cet aspect et traduisent la question de cette façon. « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» En d'autres mots, sans habit de noces, il n'était pas possible d'entrer. Oui, mais me direz-vous, et vous aurez raison, posez-moi la question, je vous répondrai. Vous direz, mais il est allé envoyer ses serviteurs pour faire entrer ceux qui étaient dans les carrefours, au chemin, des SDF, des gens au travail, etc. Comment peut-il ensuite s'attendre à ce que chacun ait un habit de noces en arrivant ? En fait, pour plusieurs exégètes qui connaissent les traditions juives, les habits de noces étaient soit préparés par ceux qui étaient invités, et c'était d'ailleurs pour la raison pour laquelle le verset 3 dit « les étant invités ». En fait, au verset 3, quand il renvoie des serviteurs pour leur dire « bah ça y est, tout est prêt, j'ai préparé le festin, mes bœufs, mes bêtes grasses », en fait, ceux qui sont contactés ont déjà, ce sont des étants invités déjà. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu l'invitation et que la tradition voulait qu'on envoie une deuxième invitation pour dire bah « maintenant c'est bon, c'est à telle heure, c'est prêt, venez, etc. » pour laisser le temps aux invités de se préparer, et notamment d'aller chercher la cravate, le costume adéquat, la robe pour les dames, etc. En fait, les étants invités étaient déjà invités. C'était la tradition en Israël. On envoyait une première. Tout le monde savait qui était invité. Là, dans la parabole, on pourrait dire c'est Israël. Et puis, on renvoie une deuxième. Ça y est, tout est prêt. En l'occurrence, dans cette parabole, tout est prêt. Jésus est là. Le Messie que tu attends, il est là, il t'invite à venir. Et là, ceux qui étaient déjà invités, Israël, disent, bah, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais dans la tradition juive, pour ceux qui étaient pris au dépourvu, il y avait toujours un vestiaire. Un vestiaire qui était équipé de robes, de tuniques, etc., qui permettait à ceux qui n'avaient pas les moyens ou à ceux qui étaient pris au dépourvu d'entrer dans la salle de noces avec un vêtement adéquat. C'est-à-dire qu'il était pourvu aux vêtements qui permettaient d'entrer dans la salle de noces. Personne ne pouvait se dire « Ah ben, je n'ai pas pu ». D'ailleurs, dans ce verset, plusieurs exégètes soulignent le fait que cet homme eut la bouche fermée. Comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement qui corresponde ? On sait bien que s'il avait eu des arguments, leur dire « Oh, mais écoute, j'ai complètement oublié de prendre mon vêtement, j'étais au travail, je réparais ma voiture, je m'occupais de ma famille, j'ai pas pensé. » Non, non, il a eu la bouche fermée parce qu'il savait pertinemment que tout avait été fait pour qu'il puisse rentrer au festin des noces du fils du roi. Il eut la bouche fermée. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun argument à faire prévaloir. De la même manière que ceux qui se présenteront devant Dieu, parce que nous aurons à être présentés là aussi au jugement devant Dieu, nous ne pourrons pas dire, tu sais, je n'ai pas le vêtement qui correspond pour être dans ta présence, Seigneur, parce que. Nous ne le pourrons pas à cause de trois mots prononcés par Jésus. Tout est accompli. Sur la croix, tout est accompli. Tu n'auras aucune excuse, je n'aurai aucune excuse me présentant devant Dieu pour dire « Ah oui, j'ai pas ce salut parfaitement installé dans ma vie, ma foi n'est pas totale. » Tout est accompli, j'ai tout fait pour que tu puisses rentrer dans le banquet dans la salle des noces de l'agneau. Il eut la bouche fermée. On peut se tourner vers l'apôtre Paul qui utilise ce terme-là. En fait, c'est un terme grec, enduo, revêtir quelque chose. Enduo, c'est le verbe qui est utilisé là concernant cette robe que cet homme-là n'avait pas revêtue. Il n'avait pas revêtu un habit noir. C'est enduo dans ce. Et ce verbe-là, Paul l'utilise à de nombreuses reprises pour parler de l'immortalité dont nous devons nous revêtir. Lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dira « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Est-ce que, et c'est pas après, c'est maintenant, mon corps, il est là. Il est revêtu de quoi ? Spirituellement, mon corps doit être revêtu de l'incorruptibilité, c'est-à-dire de cette nature incorruptible qu'est Jésus-Christ et qui me revêt entièrement. Il dira, lorsque ce corps aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie par la victoire. C'est cela la réalité de ce que je suis aujourd'hui. Si je peux rentrer dans la présence de Dieu, c'est parce que j'ai revêtu cet habit-là, contrairement à cet invité qui avait considéré comme négligeable le fait d'être revêtu de la robe de justice. Beaucoup d'entre vous diront « Seigneur, Seigneur, mais je n'aurai aucune part avec vous. » Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas revêtu, tu n'es pas revêtu de ce vêtement d'immortalité. L'immortalité est comparée à un vêtement qui recouvre le corps. Un jour, les morts en Christ seront ressuscités et les vivants seront changés. Notre corps mortel prendra une autre forme. Nous recevrons un corps incorruptible. L'utilisation que fait Paul du mot « revêtir » semble indiquer qu'il a l'esprit, la notion d'un vêtement spirituel pour symboliser une vie renouvelée. Une vie renouvelée. En fait, on peut dire que c'est la vie même de Dieu que nous revêtons. C'est pourquoi il est écrit dans l'Épître aux Galates que le croyant a revêtu le Seigneur Jésus lui-même. C'est ce qu'il dit au chapitre 3, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous avez revêtu Christ. Vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu parce que vous avez revêtu Christ. Vous avez le vêtement qui vous autorise à être dans la salle, à être dans sa présence. Hein ? C'est Ésaïe qui avait commencé déjà à ouvrir cette pensée-là, chapitre 61, verset 10. Il disait « Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se pare de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. » Alléluia ! Le salut accordé par Dieu à son peuple, à ses enfants, est un salut qui est comparé à un vêtement de fête dont le peuple s'enveloppe et se pare. C'est Dieu qui fournit l'habit. Je ne me le fabrique pas. Je ne peux pas me fabriquer le vêtement du salut. Un simili-vêtement qui ressemble à celui que Christ peut recouvrir ma vie. Et pourtant, il y a tant d'hommes et de femmes qui, au travers de l'histoire, ont revêtu la religion, le vêtement de la religion, plutôt que le vêtement du salut. Il y a, quand Paul parle aux Galates, cet aspect, mais aux Romains, il dit aussi, au chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Waouh ! Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Toujours le même verbe, enduo. Revêtez-vous. Ah ! Il y a un point à souligner quand même quant à l'usage de ce verbe grec, enduo. En grec, les verbes ont soit une forme passive, où l'acteur subit l'action, au passif, active, où il participe à l'action. Et il y a une troisième forme qui est la voix moyenne. Et en fait, si on connaît bien la voix active et la voix passive dans la grammaire française, dans le grec, on insiste pour dire que c'est le sujet qui fait l'action pour lui-même. Je ne suis pas habillé par Dieu. Il me fournit le vêtement. La voix moyenne en grec. Et j'ai vérifié, Pascal. J'ai vérifié, Patricia, grâce au livre que j'ai trouvé dans votre grenier, en faisant le nettoyage, j'ai trouvé une grammaire grecque. Et je suis retourné voir la définition de la voix passive. Merci à vous. La voix passive en grec, c'est « je fais quelque chose pour moi ». Ce n'est pas Dieu, il me donne les vêtements. Il me donne les vêtements du salut. Mais il m'appartient de les revêtir. On est dans la voix passive et le verbe « enduo » dans l'utilisation de Paul, c'est constamment la voix passive de ce verbe qui est utilisé. C'est à moi de m'habiller, de me revêtir. Dieu est celui qui fournit le vêtement du salut, mais c'est à l'homme de le mettre. Nous devons faire l'effort de nous habiller. Dieu ne peut pas le faire à notre place. Quel est le vêtement que je revais aujourd'hui, chaque jour? Vous savez, tous les matins, je m'habille. Il n'y a jamais un matin où j'oublie. Ça fait partie de mes cauchemars. Où je suis au travail et je suis en petite tenue. C'est un cauchemar, ça. Hein, ça m'arrive de faire ça. Qu'est-ce que je fais dans cette tenue ici, en public? Non, tous les matins, je m'habille. Est-ce que je prends le soin, tous les jours, de revêtir, d'avoir conscience que je suis revêtu du vêtement du salut qui m'est donné par Christ? Dieu ne le fera pas à notre place. Il a fait sa part en nous offrant le salut, l'habit de noces. Il est de notre responsabilité de nous revêtir de ce qu'il nous offre et de garder cet habit-là sur nous chaque jour. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3:9. Je terminerai avec cette parole. Nous sommes invités, frères, sœurs, au festin des noces de l'agneau. Nous sommes appelés, kaléo, appelés. Tu entends l'appel de Dieu qui te parle? Et tu es élu, tu décides d'aller jusqu'au bout avec lui. Et tu revêts les vêtements du salut. Merci Seigneur pour cette parole, cette parabole que tu as donnée. Donne-nous d'avoir conscience aujourd'hui que tu es celui qui nous appelle. C'est une invitation. Certes, mais c'est un appel. Et comme tu le dis en parlant de la scène dans un autre évangile, c'est avec une ardeur ardente que tu nous appelles. Parce que c'est ton amour qui te guide vers chacun d'entre nous, qui fait que ta voix retentit de manière instante pour me dire, pour nous dire, je t'invite à avoir part à ma vie, à mon éternité, déjà maintenant. Seigneur, nous ne voulons pas, comme les premiers invités, oublier, négliger ton appel, prioriser des choses qui n'ont pas de sens pour l'éternité et pour notre vie, déjà maintenant. Nous voulons entendre ton appel. Nous voulons avoir conscience de notre élection et marcher dans cette élection jour après jour. Nous voulons revêtir les vêtements du salut que tu nous accordes. C'est toi qui pourvois notre salut. Et nous voulons nous réjouir d'être accueillis par toi, déjà maintenant, dans la salle des noces de l'agneau. Notre cœur est dans la joie. Amen.